Europe 1.
Le journal de 6 heures présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est peut-être arrivé à votre enfant, votre neveu ou celui d'un ami, le cyberharcèlement. 20% des jeunes entre 8 et 18 ans en ont déjà été victimes. Des menaces, des insultes, du chantage en ligne décuplé par les réseaux sociaux. C'est le thème de votre vendredi thématique chaque semaine sur Europe 1.
Et ce matin, vous allez entendre le témoignage de Léo. Léo devait faire sa rentrée en 3e dans un collège des Yvelines.
Oui, sauf que cet adolescent de 15 ans n'a plus mis les pieds à l'école depuis 6 mois. Léo est victime de harcèlement scolaire au collège et sur les réseaux sociaux. Un traumatisme que lui et sa maman ont raconté à Johan Tritz.
Léo, en fait, faut savoir qu'il fait de la danse. C'est parti de là. Sur un groupe WhatsApp qu'il avait avec sa classe, ils ont commencé à l'insulter.
Et c'est là où bah il y a eu les menaces de mort et tous les messages méchants. En fait, moi, je voulais plus entendre parler de ces messages et je voulais plus les voir. Et j'avais honte aussi. Du coup, j'avais tout supprimé.
C'est une copine à Léo, en fait, qui s'est dit que ça allait beaucoup trop loin et qui elle m'a envoyé en fait les captures d'écran. Et donc là, suite à ça, j'ai pris le téléphone à Léo et c'est là où j'ai eu tous les messages. On arrêtera quand tu seras mort. De toute façon, tu mérites pas de vivre, etc., etc.
En fait, je pensais aussi que c'était de ma faute, que j'étais pas normale et tout.
Il allait au collège quand même avec la peur au ventre. Il a quand même été sous antidépresseur. On a décidé du coup de le déscolariser, de faire l'instruction à la maison.
C'est compliqué pour moi d'aller au collège et de passer devant mon ancien collège et tout. Je peux même pas.
Avec son papa, on a mis une application qui bloque les applications style Instagram, Facebook. Alors voilà, là, Léo a créé du coup un compte Instagram qui est sur mon téléphone où j'ai son code, où je peux avoir accès à toutes les communications. Et c'était la condition sine qua non. Normal, hein, c'est de son âge aussi, hein, tous ses copains longs, c'est surveillé plus. Quoi.
Un témoignage de Léo et sa maman recueilli par Johan Tritz pour Europe 1.
Les parents, premier rempart donc face au danger des réseaux sociaux, mais et l'école dans tout ça?
Oui, parce que l'entrée au collège, c'est généralement l'année du premier téléphone portable et de l'entrée dans la vie numérique aussi. Le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un programme Internet sans crainte, un cours adressé aux 6e, axé sur les bons comportements, des outils indispensables, hein, Louis Salé.
Oui, rappelez-vous de la rentrée des 6e. L'année dernière, ils avaient été accueillis dans une ambiance anxiogène par le hashtag anti-2010. Cette année, un autre slogan se veut plus positif. Bienvenue les 6e. C'est le titre aussi de ce cours enseigné dans les collèges volontaires. Des vidéos, des fiches pédagogiques sont mises à disposition des profs gratuitement.
Si tu supprimes une photo, elle restera tout de même enregistrée, même sur les réseaux éphémères.
Axel Dessin dirige le programme Internet sans crainte à l'origine de ce projet.
Donc les bonnes pratiques qu'on veut leur faire passer, c'est déjà d'être respectueux les uns avec les autres, de se rappeler que derrière un écran, il y a une vraie personne et que c'est important de bien se comporter avec elle pour éviter justement que s'installent des situations de cyberviolence. Ensuite, sur la protection des données personnelles, l'enjeu c'est surtout le plus longtemps possible de choisir un pseudonyme, de choisir un avatar, de ne pas partager des informations qui vont permettre de découvrir l'identité ou savoir où on habite par exemple.
Et ce cours se prolonge en famille, le soir, avec les parents.
Rappelez-lui que les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok et même YouTube interdisent l'accès à leur service avant 13 ans.
La vigilance des adultes est importante à solliciter car c'est grâce à elle que des situations de cyberharcèlement se débloquent.
Louis Salé, 6h04 sur Europe 1, deux fois plus vite sur l'énergie renouvelable. Emmanuel Macron donne le rythme. Le président de la République veut accélérer le développement de parcs éoliens offshore. Le premier de France d'ailleurs au large de Saint-Nazaire a été inauguré hier par le chef de l'État après 10 ans de travaux.
Et des délais que Emmanuel Macron espère réduire grâce au projet de loi présenté lundi en Conseil des ministres.
Oui, un texte qui mise aussi sur le développement de la filière nucléaire, l'art du « en même temps », Jacques Serret, une manière aussi de répondre à la crise énergétique, à condition que les souhaits du président se réalisent, hein, Jacques.
Oui, car nul ne peut l'ignorer, Emmanuel Macron le premier, la donne a changé à l'Assemblée. Et qui plus est sur un dossier aussi sensible que l'énergie, aussi clivant que les éoliennes ou le nucléaire, le locataire de l'Élysée le sait, il n'a aucune certitude que ses paroles se transformeront en actes. L'alliance de gauche anti-nucléaire fera tout pour faire barrage aux mesures visant à faciliter l'implantation de nouvelles centrales, quand de l'autre côté de l'hémicycle, les députés des Républicains ou du Rassemblement National ne seront pas plus favorables aux éoliennes. Avec une majorité toute relative, la ligne de crête de l'exécutif s'apparente donc sur ces questions à un atome, exactement comme pour la réforme des retraites. Allongement de la durée de cotisation ou accélération des énergies renouvelables, c'est en fait le même combat pour le chef de l'État qui, depuis la rentrée, s'emploie à se démultiplier sur tous les sujets en affichant toujours le même visage volontariste. On donne le tempo, se félicite un de ses conseillers, et c'est bien là la stratégie présidentielle. Occuper l'espace pour se placer au centre du jeu politique, manière comme une autre de donner l'illusion d'avoir toujours la main malgré la situation de blocage.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Au procès du drame de Mias, l'audience ne reprendra pas aujourd'hui. Les débats ont été suspendus hier. La conductrice du car scolaire s'est effondrée pendant son interrogatoire.
Oui, Nadine, seule sur le banc des accusés, est jugée pour la collision de son bus avec un TER en 2017. Six adolescents tués, 17 blessés. Les questions de la cour portaient sur sa prise de médicaments jusqu'à cette crise de larmes au point d'être évacuée par les pompiers de Marseille, où notre correspondant Stéphane Burgat suit le procès pour Europe 1.
Des débats éprouvants, une séance qui tourne court et une seconde semaine incertaine. Nadine Oliveira, partie en ambulance, est dans un état de fragilité psychologique préoccupant, selon son avocat, maître Jean Codoniès.
Après, je ne sais pas ce qu'en diront les médecins, moi je ne suis pas médecin. Elle a fait une tentative d'autolyse il y a 2 mois et demi. C'est un être fragile, qui est pris dans une tourmente épouvantable qu'on ne peut souhaiter à personne. La mort de 6 enfants, quand vous êtes... au volant de l'autocar, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas évacuer de votre esprit. Je veux dire, il faut le comprendre quand même.
Nadine Oliveira qui est restée cette semaine sur sa position. La barrière du passage à niveau était bel et bien ouverte, selon elle, malgré les témoignages d'automobilistes qui la contredisent, malgré les données de certaines expertises, ce qui fait dire à des parents de victimes présents au procès qu'ils n'attendent plus rien de sa part. Qu'elle soit présente ou non lundi ne change plus grand-chose. Un papa nous glisse même. Pour moi, c'est comme si ce procès était déjà terminé. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Marseille, où les transports en commun seront perturbés aujourd'hui.
Oui, la CGT FO appelle à une grève contre le manque d'effectifs. Un bus sur 3 aux heures de pointe. Le réseau de tramway sera aussi particulièrement touché. 6h07 sur Europe 1. Voilà de quoi redonner de l'espoir aux supporters français à 2 mois du mondial. Les Bleus ont retrouvé des couleurs hier soir en Ligue des Nations. 2-0 face à l'Autriche. La première victoire de l'équipe de France depuis le mois de mars. 2 buts signés Mbappé et Giroud. Une performance qui pourrait permettre aux Savoyards de jouer une dernière Coupe du Monde en novembre.
Et pour lui, le dernier match, ce sera ce soir à Londres. Roger Federer va faire ses adieux au tennis.
Oui, le Suisse jouera pour la Laver Cup. Dernier tournoi professionnel de son immense carrière avec une affiche de rêve. Le maestro de 41 ans jouera en double aux côtés de Rafael Nadal, rival et ami. Jean-François Pérez, c'est ce qui s'appelle finir en beauté.
Oui, c'est comme si Federer, conscient de ses problèmes physiques récurrents au genou, avait tout planifié. Notre consultant, Cédric Pioline, salue l'artiste suisse une dernière fois.
Tout athlète rêve de contrôler ou de pouvoir être décideur, je dirais, de sa sortie. Il a décidé de le faire là, à Londres. Donc je trouve que c'est bien, c'est mérité. Il aura les hommages qui lui sont dus. Il y aura beaucoup de réactions, bien au-delà du monde du tennis.
Ce soir à Londres, l'émotion étreindra les 20 000 chanceux qui ont réussi à trouver une place. Nadal, Federer, côte à côte, cela repose la question du meilleur joueur de tous les temps. Federer est-il celui-là ? Réponse du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton.
Sur le jeu, sur la technique, sur la pureté, c'est probablement le meilleur joueur et le plus complet. Il a donné envie de jouer au tennis à énormément de gens. Je ne sais pas quel style de jeu va pouvoir remplacer le génie qui était Roger Federer.
L'homme aux 20 victoires en tournoi du Grand Chelem promet de ne pas trop s'éloigner de ce tennis qu'il aura incarné durant près d'un quart de siècle. « Je ne serai pas un fantôme », assure-t-il.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Nadal, Federer contre Sock et Tiafoe, match prévu à 21h20.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Oquet.